découvrir des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Melika Lafer, réalisée par Saïd Boutelfa.
La wilaya de Guelma se situe au nord-est du pays et constitue, du point de vue géographique, un point de rencontre, voire un carrefour entre les pôles industriels, Annaba et Skigda, et les centres d'échange au sud, Oum El Bouaghi et Tébessa. Elle occupe une position médiane entre le nord du pays, les hauts plateaux et le sud.
والشين مع الشينة سعيد خويا يجيبو خنفوس يجري مع الخنافس واه واه كل واحد ربي في الدنيا واش عطاه واحد بله ربي بالزين يبات يتمتع بيه واحد بله ربي بمعزة تبات تصيح وتعفس فيه القصيدة راهي لسود مقروني في خاطر المشيخة الاثنين الشيخ كمال قلمي وسعيد الموشوي يا حبابنا اللي معنا حاضرين
Un groupe pastoral par excellence, habité depuis l'aube de l'humanité, comme l'attestent divers matériaux, inscriptions libyques et stèles funéraires mis au jour par les recherches archéologiques. D'illustres historiens anciens rapportent le récit de bataille de Jugurtha, qui livra en 109 avant Jésus-Christ aux troupes romaines. Il aurait vaincu non loin de la ville de Guelma, précisément dans la mystérieuse Sutule, le général romain Postinus, un de ceux qui firent de l'antique Calama un centre urbain relativement important au cours du 1er siècle de notre ère. Calama ne fut-elle pas avec Sétif, Hippone Annaba, un des greniers de Rome au cours du 2e et 3e siècle avant Jésus-Christ. On écoute, messieurs, les directeurs de la culture et du musée. Alors, nous nous trouvons au musée du théâtre romain, ici à Guelma, en compagnie de M. Chaouch Mahmoud, qui est directeur donc, du musée, et également en compagnie de M. Ikhal Ben, qui est lui directeur de la culture au niveau de la wilaya de Guelma. Messieurs, merci. Alors, il y a des personnages illustres ici. Est-ce que vous pouvez me les citer ?
Nous sommes dans la première salle de musée. On se trouve 10 statues et 10 stèles aussi. La première statue, c'est Mercure.
Donc c'est le dieu Mercure, voilà. Qui est le dieu de la médecine, et du commerce plutôt, des voleurs et de l'éloquence,
voilà. Comme par hasard. Plus Jupiter, c'est le dieu des dieux, c'est chez les Romains, Zeus chez les Grecs. Il y a aussi la déesse de l'agriculture, c'est Cérès. Et il y a aussi une stèle très importante, c'est la stèle des Antistes. C'est une grande famille, elle habite à l'époque chez Tibilis. La ville romaine de Tibilis.
Alors, messieurs, des inscriptions libyques trouvées donc ici à Guelma, prouvant que la région a été civilisée bien avant l'arrivée des Carthaginois et des Romains. Parlez-nous un petit peu de cette écriture libyque. qui est une écriture très très ancienne, et que reste-t-il de cette écriture?
Donc malheureusement vous abordez une question de débat, parce que tout reste à faire justement sur le plan de l'écriture libique. Les quelques rares éléments que nous possédons aujourd'hui, c'est le recueil des inscriptions libiques de révérend Père Chabot, qui a été écrit en 1940, qui malheureusement n'a pas réussi à récolter toutes les inscriptions libiques qui se comptent par milliers à travers l'Algérie. Donc on parle actuellement, il y a une sorte de regain d'intérêt pour cette histoire du libique. Tout a été fait malheureusement en France. Maintenant on commence à réétudier la question. Déjà initialement on parlait d'un seul alphabet, mais il s'est avéré qu'il y a deux. Je ne sais pas si ça ne fait pas partie de la politique divisée pour régner. On parle de libique de l'Occident et de libique d'Orient, concernant ne serait-ce l'Algérie. Donc c'est une vieille histoire, le libique, c'est une ancienne langue qui a toujours existé dans l'Afrique du Nord et qui a connu plusieurs mutations et au gré des influences puniques par exemple, et qui a subsisté sur pas mal de stèles qui sont essentiellement nombreuses du côté de l'Est. Donc de Guelma où nous en sommes, c'est un bastion du libique justement. C'est qu'actuellement nous sommes presque au degré zéro des études sur le libique. Nous comptons beaucoup sur les nouvelles chaires de berbères pour entamer ce vieux problème du libique.
Alors justement, messieurs, la question qui se pose, c'est que cette écriture libique reste un objet de curiosité, de recherche et de travaux. Ils disent qu'elle a des ressemblances avec l'écriture qu'on retrouverait à Tamanrasset, l'écriture Tifina.
Donc, il y a des similitudes. Donc, une langue ne disparaît jamais totalement de toute façon. Donc, les Touaregs, disons, ont repris sur les inscriptions rupestres qui ont été trouvées dans le Tassili, dans le Tassinadjar, dans la région de Dessé, qui foisonne d'inscriptions libiques. Ils ont repris en adaptant, parce qu'ils ont adapté ce langage. Donc, le Tifina, enfin, les caractères que nous appelons aujourd'hui le Tifina ne représentent pas le libique antique. Donc, le libique antique, c'est quelque chose qui est plus penché vers le punique. Mais ce que nous avons aujourd'hui, le descendant, disons, du libique, ce n'est pas tout à fait la langue initiale, quoique encore mal usité.
Voilà. On sait que les Romains sont restés, puisque vous êtes là le directeur de ce théâtre romain, ce théâtre magnifique qui a été plusieurs fois restauré par la colonisation et dernièrement par les autorités algériennes, enfin par la Wilaya. Alors justement, on va parler de cet illustre personnage qui n'est pas représenté ici. On sait qu'il a eu une fin plus ou moins tragique puisqu'il est mort dans les prisons de Rome. Il y a Jugurtha qui a combattu, qui était un roi numide, qui a combattu longtemps les Romains, en 109 avant Jésus-Christ. Vous disiez hors micro que la grande bataille c'était à Sutul, mais que Sutul n'est pas sur le plan historique identifié.
Oui, on parle souvent de cette fameuse bataille de Sutul, mais pour nous archéologues, hommes d'histoire, nous comptons beaucoup sur les itinéraires antiques, l'itinéraire de Ravin, la table de Peutinger, qui mentionne les noms antiques des villes puniques aux Romains. Malheureusement, ce terme, ce toponyme de Sutul ne figure sur aucun document antique. Donc on suppose que c'est un nom d'un lieu dit inconnu, et où a eu lieu justement cette fameuse bataille qui a vu Jugurtha s'opposer aux légions romaines dans la région. On sait que c'est dans la région de Guelma, mais où exactement, on ne sait pas. Ce n'est pas un nom connu, ce n'est pas un macro toponyme, c'est un petit toponyme qui n'a pas eu la chance de figurer sur les itinéraires connus des Romains. Voilà.
Alors, Jugurtha, ce serait le petit-fils de Massinissa?
C'est le petit-fils de Massinissa qui a été écarté donc, du pouvoir par le... Bon, il y avait un partage après la mort de Massinissa en 148 avant. Il a eu tellement confiance des Romains qu'il a laissé le pouvoir à Scipion l'Africain pour, laisser la destinée de la Numidie en main des Romains, et qui a partagé donc le pouvoir entre trois fils, Messipsa, Mastanabal et Adarbal, alors que Jugurtha a été écarté. Et pour, bon, disons, l'une des raisons pour s'insurger contre les légions romaines. Disons, l'histoire parle de... Ça commence en 117 avant, jusqu'à sa capture, donc emprisonné à Rome, jusqu'à 105. Disons, plus de 10 ans d'insurrection. Et lui-même, il était un militaire, il était un lieutenant dans les légions romaines. Donc il s'est formé dans, le, dans l'armée romaine.
Le théâtre de Guelma, il paraît que ce monument, avec son nombre inespéré de gradins, ils disent que c'est une merveille qui laisse loin derrière elle les théâtres de Carthage, de Tingane et même de Béziers et d'Orange. Est-ce vrai?
Donc, concernant l'importance du théâtre de Guelma, comparativement à d'autres métropoles en Afrique du Nord ou en Europe du Sud, nous savons que ce sont des théâtres conçus spécialement pour la population locale qui ne dépasse guère les 10 000 habitants, dans le meilleur des cas, à l'exception de Carthage, qui était quand même la capitale d'une province romaine. Tout le reste, c'est des petits théâtres, à l'instar de Tingane, de Djimila, de Guelma. Donc, c'est des petits théâtres conçus spécialement pour les habitants de la ville et peut-être même pour les voyageurs. Donc, on suppose que quand il y a une représentation théâtrale à Guelma, ce n'est pas forcément pour les gens de Calama. Ils peuvent venir d'Annaba, ils peuvent venir de... N'oublions pas que les routes romaines entre Guelma, par exemple, les bonnes, entre Guelma et Constantine, il y a des petites bourgades, des petits municipes, des petites villas où les gens quand même venaient à l'occasion assister aux représentations théâtrales. Voilà.
C'est des lieux de villégiature.
C'est des lieux de villégiature spécialement conçus pour les gens, la petite population. C'est une bouffée d'oxygène. Donc en plus des bains, nous savons que les bains c'est un lieu quand même où se réunissent toutes les réjouissances de la vie quotidienne qui devaient être austères dans des régions pareilles. Il faut aussi un peu de théâtre, un peu de... La vie consistait, disons, se partager entre les bains, le forum et le théâtre. C'est les trois lieux où se déroulaient les grands axes de la vie quotidienne romaine.
Alors, monsieur Khelben, justement, à propos de bains, ils excellaient, justement, dans l'art du thermalisme.
Nous savons que, je ne sais pas qui a dit cette fameuse citation, on ne peut pas imaginer une ville romaine sans bains. Donc, une ville romaine est par excellence, une ville où il y a des bains. Sinon, ce n'est pas une ville, c'est un petit village. Donc, dans chaque ville, il y a au moins, dans le meilleur des cas, dans le cas, bon, le cas de Guelma, nous connaissons des restes d'un seul bain. C'est le bain de Septim-Sever, c'est ça? C'est le bain de Septim-Sever, donc qui a été construit à la fin du 2e, début 3e siècle, dont les traces sont colossales. Donc, chaque ville devait avoir au moins un grand bain public, au moins, ça c'est le minimum. Le meilleur des cas que je connais, Djemila par exemple, où j'étais bien avant, il y a 7 complexes thermaux. À Tingane, il doit y avoir plus. C'était un édifice où se concentrait l'essentiel de la vie, disons, du loisir, la lecture, le côté sanitaire. Donc, c'est un lieu où se réunit ici. Le sanitaire, d'ailleurs, on y trouve souvent les statues d'Hygia, déesse de l'hygiène, et les statues d'Esculape. On y trouve souvent des inscriptions ou des statues en honneur d'Hygia et d'Esculape.
Donc la déesse Hygia, qui est liée donc avec l'hygiène, c'était une déesse qui avait son importance. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2007, elle nous ferait un grand bien ici en Algérie.
Ben, on se souhaiterait vivement son retour, ne serait-ce que pour certaines places, hein, pas toute l'Algérie.
Alors, on revient à Calama, justement, c'était le nom ancien de Guelma. C'était, on dit, un centre urbain relativement important au cours du 1er siècle de notre ère, juste avant les Vandales. En tout cas, c'est ce qu'attestent Saint-Augustin et Donatus. Et donc, ils évoquaient la prospérité de la ville et tout, avant l'arrivée des Vandales.
Donc, il est naturel que chaque concurrent, chaque opposant à quelque chose, incrimine son prédécesseur. Donc, Saint-Augustin, parlant d'une prospérité de la région avant les Romains, c'est logique, c'est dans la logique des choses, puisque c'était ses ennemis. Les Vandales, déjà ne serait-ce que par le côté religieux, c'était des Ariens, c'était la doctrine arienne. Alors que Saint-Augustin, c'est le digne représentant du catholicisme pur et dur, c'est le père de l'Église latine. Donc, il est juste qu'il parle qu'à l'arrivée des Vandales, tout le monde, d'où le nom de Vandale d'ailleurs, mais ces dernières années, tout porte à croire que cela n'est pas tout à fait juste. C'est vrai que les Vandales, en arrivant en Afrique du Nord, il y a eu du saccage, il y a eu beaucoup de démolition délibérée. Mais quand on voit le livre de Christian Courtois, par exemple, qui a été publié à partir de 1950, des Vandales de l'Afrique du Nord, où il remet, disons, il remet à leur juste place les Vandales. C'était pas aussi, ils n'étaient pas aussi Vandales qu'on le dit. Donc, ce sont des gens qui ont, avec le temps, su s'adapter aux bienfaits, aux bains, on parlait de bains, aux bains romains. Ils ont su réutiliser le legs, disons, que les Romains ont laissé. Donc, c'est pas toujours vrai ce qu'on dit que les Vandales ont tout cassé et tout. Et ça, c'est juste aussi pour les Français. Les Français, la connaissance française, quand elle arrive, elle dit que ceux qui étaient là, les Arabes, ont tout cassé, par exemple. Donc, chaque civilisation essaie d'incriminer, de rendre la responsable ceux qui sont déjà passés.
Donc, les Vandales venaient d'où exactement?
Donc, les Vandales, c'est le premier envahisseur qui est rentré de l'Ouest. Tous les autres sont venus de l'Est, à l'exception des Vandales qui sont venus donc, par Tanger. Ils ont traversé l'Espagne, le détroit de Gibraltar, et sont entrés par l'Ouest. Donc, ils ont occupé tard la région Est. D'où cette adaptation. Il faut imaginer que les conquêtes d'il y a 20 siècles, ça prenait 10-20 ans minimum. Donc, d'arriver de l'Ouest à Galma, à l'Est, ils ont eu tout le temps pour s'adapter aux bienfaits de la civilisation romaine. Donc, le saccage n'a plus lieu d'exister. Donc, ce sont ce qu'on appelle les peuples du Nord. Ce sont essentiellement des peuples germaniques. C'est peut-être les descendants de Vikings qui ont envahi Rome. Donc, Rome n'existait plus à partir des Celtes, des Bretons, un peu de tout, qui sont venus du Nord, en passant par la Gaule, la France, envahissant le monde romain. Donc, Rome est tombée en 476. Et là, ils ont continué la conquête des provinces nord-africaines. Bien sûr, tout a été reconquis par les Byzantins, disons, un siècle après. Voilà.
Parmi les sources thermales, la wilaya de Guelma possède plusieurs thermes. Les plus importantes sont Hammam Ouldali, celui de Belhachini, et le plus connu est celui des Mosrotin ou Hammam de Beir, d'une superficie de 34 hectares, destiné à accueillir des projets d'investissement touristique et accompagné de cette fameuse légende. Sa construction remonterait au IIe siècle de l'ère chrétienne, par ailleurs, ses restes de thermes sont classés en vertu des dispositions portant protection des sites, des musées et des monuments historiques depuis 1900. On écoute M. Brahim Belhen. Près du geyser principal, nous sommes ici Hammam de Beir, plus connu sous le Hammam Mosrotin, avec M. Belhen Brahim, qui est aussi enseignant dans la région, ici Hammam Mosrotin, juste derrière cette coupole qui fait office de sauna.
Oui, office de sauna qui sert pour surtout ceux qui ont un peu de graisse pour maigrir. aussi pour qui ont un problème respiratoire et c'est tout.
Oui, on va parler justement de ces vertus de ce hammam Mosrotin. Alors il y a des roches pas très loin de nous, des roches à environ 2 mètres de hauteur avec une circonférence aussi de 3-4 mètres et qui représente la vieille légende. Racontez-nous cette légende.
Il était une fois un roi. Le fils d'un roi, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, voulut se marier et il a fait le tour du royaume à la recherche de la plus belle femme. Et ben, il a trouvé sa sœur, elle était la plus belle, il voulait l'épouser. Il y avait une grande fête à la présence des meilleurs cavaliers de ce royaume. Et c'est pas moi... à la présence du cadi, tous les représentants de ce
Justement, on sent cette fête d'un mariage incestueux, c'est-à-dire le frère et la sœur. Là, on voit deux amas de roches, l'une qui représente le couple. À côté, le cadi qui a la tête coupée. Et en face, c'est les parents.
En face, les parents. Les parents et les invités. Ouais. Et c'est pas Dieu qui a été stépiché. Et Dieu les a punis. Voilà. Et il les a rendus en roche.
Ouais. Quand on dit le hammam mskhoten. Voilà. Et là, donc, on est près du geyser qu'on entend avec le gronder.
Il disait que ce geyser-là, c'était la marmite où il cuisait les couscous, etc. etc. Mais c'est la légende, bien sûr.
On dit très souvent qu'une légende est très souvent nourricière. Ça fait longtemps qu'elle dure, cette légende, et les gens y croient un peu.
Bon, ne croit pas à ça, mais c'est une légende. On ne croit pas, mais... Parce que scientifiquement, ces roches, ça, là, c'est du calcaire.
Ouais. Alors justement, on sent justement les vertus thérapeutiques de ces eaux parmi les plus chaudes qui jaillissent entre les entrailles de la terre, puisqu'on entend là le geyser qui bouillonne, qui ronronne. Et quelles sont les vertus? Pourquoi les gens viennent ici?
Bien sûr, les gens viennent ici parce que, bon, on considère que Hammamberg, c'est une région touristique, connue par ses sources chaudes. Aussi, comme vous voyez, il y a les palmiers qui s'adaptent facilement ici. Beaucoup de hammams, les gens viennent pour prendre des douches ici, parce que l'eau, c'est bien pour la peau.
Donc, il y a du chlorure de sodium, du potassium, du soufre.
Oui, en général, il y a l'eau, deux sortes d'eau ici. L'eau, c'est-à-dire, c'est pas riche avec du soufre, et l'eau, c'est-à-dire riche avec du fer, deux sortes d'eau, c'est tout.
Donc pour la peau, surtout pour la peau.
Surtout pour la peau.
Et la grande période, c'est le printemps.
La grande période ici, c'est le printemps. C'est un site très riche, un peu rentable, et surtout normalement, à Hammamberg, il n'y a pas de chômeurs, normalement.
Alors, Hammamberg est entouré de montagnes, et vous nous disiez tout à l'heure que pas très loin, il y avait le douar du feu président Houari Boumediene.
Oui, il est tout près, à peu près à 2 km d'ici, juste derrière cette montagne-là.
Comment il s'appelle ce douar?
Mjaz Ammar. Ouais. Mjaz Ammar. Il habite pas loin de Mjaz Ammar, même sa ferme, ça existe maintenant, oui. Et il est encore, oui, même ils l'ont restauré. Ils disent qu'ils vont faire un musée là-bas, mais je ne sais pas.
Alors justement, dans votre petite enfance, vous m'avez dit que le président Feu Boumediene, il venait souvent ici pour prendre des bains.
Oui, c'est-à-dire, je me souviens, dès mon enfance, j'entends dire, et même moi j'ai vu une fois Boumediene qui est venu ici, et les grands disent que chaque mois il vient ici rendre visite à Hammamberg et prendre des bains ici.
Il était très attaché à son douar.
Ah, il est très attaché à son douar, oui. Il vient avec son cachabia et son burnous.
Incognito.
Oui, et même je me souviens, il vient dans une déesse noire.
Il reste dans vos mémoires, le président, parce qu'on a vu là, quand on a visité le bain thermal, il y a beaucoup de ses photos, lui et sa mère et tout ça. Ça reste une mémoire vive.
Pour nous, Boumediene, c'est le premier, ou bien... Moi, je le considère comme un calife.
Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui?
On a beaucoup de choses. C'est-à-dire? Beaucoup de choses. Boumediene, pour nous, c'est l'espoir, c'est l'Algérie.
Occupé en 1834 par les Français, Guelma envahi par plusieurs générations de colons, la résistance guelmoise contre le colonialisme finit par payer le prix fort. Le 8 mai 1945, la ville connaîtra un massacre sans précédent dans son histoire. L'événement du 8 mai 1945 a marqué à jamais la mémoire des Guelmois, un tournant dans l'histoire de la lutte nationale. Le fossé entre Algériens et Européens ne sera plus jamais comblé. Pour les militants du PPA, le colonialisme montrait son vrai visage. Le temps de la révolution par la loi est révolu et doit faire face à la révolution par les armes. On écoute M. Saïb Salah. avec M. Saïb Salah, qui est vice-président donc, de l'association Promotion du Tourisme et l'Action Culturelle, et membre actif de l'association 8045. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant d'évoquer justement les événements douloureux que Galma a connus le 8 mai 45, on va parler justement de la deuxième casquette, puisque vous êtes... c'est la promotion du tourisme et de l'action culturelle. Alors, qu'aimeriez-vous sauvegarder donc, dans l'action culturelle ici à Guelma?
Merci. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre visite à Guelma, qui va certainement participer à faire connaître mieux la ville de Guelma. S'agissant des sites à préserver à Guelma, il y a des sites, il y a des valeurs, il y a des traditions, il y a pas mal de facteurs qui, hélas, ont commencé à disparaître, et qui était dans un passé récent une caractéristique de Guelma. Pour l'immobilier, nous avons des sites archéologiques, nous avons le théâtre romain, nous avons certains édifices, nous avons certaines artères de la ville avec les arbres, les placettes, les jardins publics. C'est une très belle ville dont nous sommes jaloux, et tout Guelmois chercherait et espérait préserver ses acquis et les développer davantage.
Monsieur Saïb Salah, aussi membre actif de l'association du 8 mai 45, à Guelma, ici, on a retenu, la mémoire ici à Guelma a retenu des événements douloureux, ceux du 8 mai 45, les événements qui se produisent à Sétif et à Guelma en mai donc, 1945 sont habituellement considérés comme une insurrection nationaliste, donc qui donna lieu à une répression très violente ici à Guelma.
Le 8 mai 45, pour nous à Guelma, pour les générations passées, pour les jeunes, c'est un peu le patronyme de Guelma. Lorsqu'on dit Guelma, on dit la ville du 8 mai 45. D'abord, je m'excuserai si j'entame ce sujet. Je ne suis ni historien, oui, ni quelqu'un qui a vécu l'événement. Mais j'ai eu la chance de côtoyer des personnages, dont des anciens militants qui ont participé au 8 mai 45, ou plus, qui étaient responsables du mouvement PPA à Guelma. J'ai eu aussi l'honneur et le plaisir d'avoir côtoyé certains historiens tels que M. Corso, M. Boujma Hechour, avec lesquels j'ai un peu travaillé, j'ai été un peu l'intermédiaire des rescapés de Guelma avec ces historiens et ces chercheurs. Donc ce que je vais dire, c'est je le dois à nos aînés. Il y en a qui sont disparus, Allah yirhamhum, tels que M. Salah Brahim, M. Brahim Behloul, des vivants, M. Sessi Ben Hamla, Allah yitawel fi amro, M. Yales, qui est un rescapé qui vit toujours à Bitaoul fi amro. Bon, je ne citerai pas les noms parce que je risque de faire une gaffe. Mais la question de Guelma à 8 mai 45. D'abord, avant le 8 mai 45, Guelma était un peu le berceau du nationalisme. Parce qu'il y a eu des cellules de l'étoile noire africaine, bien avant le PPA à Guelma, et il y avait des cellules du PPA qui avaient leur structure. Bon, lorsque je dis structure, du temps de la colonisation, on ne pouvait pas évoluer librement pour créer des cellules, faire la vulgarisation à travers des meetings ou des réunions. Il y avait des éléments très importants dans le monde de la culture, dans le monde du sport. Je citerai Chebeb Elfen, qui recelait des personnalités artistiques, qui faisaient du théâtre, de la musique, etc. Et c'était une opportunité, lors de ces spectacles, pour vulgariser les mots d'ordre des militants. Il y avait l'ESFMG qui est devenu ESMG et qui a lutté corps et âme pour s'imposer par le sport, et qui a d'ailleurs pu décrocher le championnat d'Afrique du Nord en 1954. Il y a les scouts, le scoutisme, le groupe Noujoum, auquel nous avons eu l'honneur d'appartenir à l'indépendance, qui a pratiquement été le creuset du mouvement nationaliste à Guelma, à l'instar du pays. la majorité des grands militants de ce pays ont passé par le scoutisme. Donc il y avait les tariqa, il y avait des tas, ce qui vous donne une image de Guelma qui était déjà une ville citadine. On faisait du sport, on faisait de la musique, on faisait du scoutisme, il y avait les scouts de France. Mais les scouts de France n'ont pas pu rivaliser avec le groupe Noujoum. Donc Guelma était déjà une ville citadine avec ses jeunes sportifs, ses jeunes de la culture, ses jeunes qui étaient plus ou moins politisés par le biais des SMA. Donc Guelma était un peu le berceau du nationalisme. Je dis le berceau du nationalisme. Lorsqu'on avance des choses pareilles, il faudrait quand même au moins un élément. Tous les leaders du mouvement nationaliste sont passés par Guelma. Ils ont tenu des meetings, ils ont tenu des réunions clandestines, ils ont tenu des... Et la majorité, la flagrante majorité des jeunes guelmois de leur époque ont été structurés au PPA. Ils ont affronté les colons et les pro-français. On les décrivait comme étant les hfaya, les vanupiers. Et qu'est-ce que vous allez faire à la France ou les fils de veuves, les fils de divorcés, etc. Ou les tégés, ou les tégés, qu'est-ce que vous allez faire et ils ont tenu jusqu'au 8 mai 45.
Monsieur Saïb, je voudrais justement rajouter justement aussi des dates historiques. On s'entend que aussi le colonialisme présentait justement des insurrections, parce qu'en 1943, le mouvement donc national algérien était en plein essor. Je rajoute à ce que vous venez de dire. Et au mois de février, Farhat Abbas avait remis aux autorités françaises un manifeste rompant donc avec la politique d'assimilation, dans lequel le chef nationaliste pharmacien donc de son état revendiquait l'indépendance de l'Algérie par rapport à la France dans un cadre fédéraliste. Ça c'était déjà au premier plan. Et puis les Algériens qui avaient donc provisoirement courbé les chines devant la colonisation depuis plusieurs révoltes, celle de l'émir Abdelkader, Bouamema, Zahacha, Mokhrani, durement écrasés, hein, n'avaient pas abandonné le sentiment que leur personnalité était profondément irréductible à la France. Alors, M. Saïb, c'était aussi pour marquer le climat de l'époque, le climat international de la période, qui n'est évidemment pas pour rien dans ces débordements meurtriers. Certains historiens disent que le général de Gaulle, avant de quitter Alger pour Paris en août 1944, avait donné l'ordre au général Henri Martin de réprimer tout mouvement de type nationaliste dans cette Afrique du Nord. Donc c'était aussi, il y avait un climat de tension.
Le climat de tension, d'après ce que j'ai appris des personnes que j'ai citées, c'était un peu l'approche de la victoire des Alliés. Et la France avait promis aux Algériens qu'après leur participation à la libération de la France, en reconnaissance, elle leur donnerait leur indépendance. Ce facteur a motivé les militants au niveau national et l'effervescence a gagné les rangs du peuple algérien comme attendant inéluctablement la tenue de la promesse de la France. Donc en matière de stratégie politique à long terme, le général de Gaulle ou les gens qui dirigeaient la France à l'époque craignaient cette réaction au lendemain de la victoire. Et ils ont commencé à prendre leurs dispositions, ce qui est naturel dans la politique ou dans la stratégie militaire. Et sur le terrain, les Algériens et le PPA ont commencé à créer un état dans l'état. Les gens ont commencé à consulter les cellules du PPA, les cellules du PPA qui intervenaient dans les conflits entre les Algériens, qui l'organisation structurelle a pris des dimensions alarmantes pour la France, et les services spéciaux, l'administration, etc., donnaient des informations. Les colons, lorsque je parle de Guelma, les colons ont été réduits au niveau de Guelma, les gens de Guelma étaient prédominants sur la scène, dans tous les domaines, économiques, etc. Parce qu'il faut dire qu'à Guelma, il y avait des activités de métier, il y avait des activités de commerce, il y avait des... À l'époque, il y avait même un syndicat des coiffeurs à Guelma, pendant les années 40. Bon, tous ces facteurs ont fait que la France prenne ses dispositions pour préparer une contre-attaque à un éventuel soulèvement ou des activités de la sorte.
Alors, donc, on va décrire un petit peu, c'est ici à Guelma, on parle d'un 8 mai 45, mais les événements se sont déroulés jusqu'à la fin juin. Donc, pour citer un écrit de Kateb Yassine, il dit, qui était témoin oculaire à l'époque, il dit « Je témoigne que la manifestation du 8 mai 45 était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n'avaient pas prévu de réaction. » Cela s'est terminé par des dizaines de milliers de morts. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire en voyant des cadavres partout, dans toutes les rues. Elle était pacifique, mais aussi les pancartes étaient très significatives, puisqu'ils revendiquaient une indépendance.
Effectivement, le 8 mai 45. Avant le 8 mai 45, il y a déjà eu une marche le 1er mai 1945. Avec les alliés pour célébrer la fête du travail. Ils brandissaient les drapeaux des alliés avec le drapeau algérien. Ils ont été rappelés à l'ordre par le sous-préfet Achiari à l'époque. Les dirigeants du PPA Guelma ont été convoqués par le général Achiari. Il les a remis à l'ordre. Il leur a interdit de brandir le drapeau algérien. Il les a même menacés que s'il se passait quelque chose, ce serait eux qui paieraient. Bon, pour le 8 mai 45, tout s'est organisé dans la clandestinité la plus totale. On raconte, les témoins, ceux qui ont vécu, la manifestation devait avoir lieu la matinée. C'était un jour de souk et Guelma était un grand marché au niveau national. Parce qu'il y avait trois grands marchés au niveau national, Guelma, Khroub et Harraj. Donc c'était une journée de souk. Les militants ont rassemblé les militants de la ville et les populations environnantes au lieu dit El Karmet, sur les hauteurs de la ville. Il y a aujourd'hui une stèle qui commémore cet événement, et ils ont attendu les instructions, marcher, ne pas marcher, etc. Les moyens de communication n'existaient pas à l'époque, et même les moyens de transport étaient limités. C'est quelqu'un qui leur a donné l'information l'après-midi pour leur dire « Ok, vous pouvez... » Et la marche a démarré à 3h, à 4h de l'après-midi, etc. Et ils avaient les drapeaux des alliés, il y avait le drapeau algérien et des pancartes qui revendiquaient l'indépendance, qui demandaient la libération de Messali Hajj, etc. Et instruction a été donnée à tous les marcheurs de ne pas se munir d'aucun matériau qui serait susceptible d'être... considéré comme une arme. La marche démarrait du lieu d'Île Carmet jusqu'à l'hôtel de France au centre-ville. Là, le sous-préfet Achiari, accompagné de gendarmes et de policiers, a arrêté la marche. Mais il y a eu des discussions virulentes, etc., jusqu'au moment où ils ont pris les armes et ils ont tiré en l'air. Une poursuite a été engagée, bon, ça s'est écrit dans l'histoire. Et on raconte que le premier tué est un certain Boumaza qui a été abattu à quelques encablures du lieu où la marche a été. Maintenant, le fil des événements du 8 mai 45, c'était l'enfer à Guelma. C'était la chasse à tous militants du PPA qui étaient tous des jeunes. Qui étaient tous des jeunes et qui se distinguaient par rapport aux colons par leur manière de s'habiller, par leurs activités culturelles, sportives, comme je disais au départ. Au départ, c'était la répression de la marche. Ensuite, c'était la liquidation de tout élément, militant ou pas, qui dérangerait les colons. Une milice, d'ailleurs, des colons a été créée. Ce n'était pas uniquement la gendarmerie et la police. Il y a une milice des colons qui s'est armée avec la bénédiction du sous-préfet Achiari. Et il y a des documents que j'ai lus après, avec les correspondances de la police, du préfet de Constantine, d'une commission d'enquête qui est descendue de Paris à Guelma pour essayer d'arrêter les massacres. Parce que, comme vous le disiez, à chaud, il y a eu les assassinats à froid à Guelma. Il y a eu des bombardements par avion dans la région de Belkhir, ex-Milizimo, de Ain Arbi, ex-Gouno, etc. Des bombardements de populations innocentes.
la gendarmerie et la police auraient aussi donné des armes aux civils français ?
Il y a eu une milice qui a été créée aussi par des civils qui étaient armés, qui avaient leur organisation et qui se réunissaient pour arrêter la liste des éléments à abattre. On les prenait de chez eux. On les prend à la caserne, à la caserne de la gendarmerie, à la police, même le local des scouts. Le local des scouts a été transformé en geôle et en lieu de torture. Bon, ils étaient torturés, ils étaient malmenés. Ensuite, on les prenait dans des camions pour les fusiller à Kefl Bomba, c'est un lieu mashorana, et puis on les ensevelissait dans des fosses communes. Après, lorsque l'événement est passé, ils ont commencé à prendre ces corps qui étaient ensevelis et les brûler dans un four à chaud dans la région d'Héliopolis, qui appartenait à un certain Lavi. Il y a un coin à Guelma, aux environs de l'Hajm Barq. Les anciens l'appelaient la carrière. On raconte que les hauts quartiers de Guelma, pendant une certaine période, ne pouvaient plus respirer, tant les corps brûlés donnaient des odeurs nauséabondes, insupportables. Bon, les gens ont été brûlés à la carrière et ils ont été brûlés au four crématoire d'Héliopolis. Par la suite, c'était la chasse sélective. Bon, il n'y avait plus rien, ça s'est tassé. Restait la chasse sélective. Il reste Wild Flan, qu'on n'a pas trouvé où est-il. On le cherche une semaine, deux semaines, trois semaines. Il fallait le trouver, le ramasser pour l'assassiner. Donc les événements ont duré, d'après ce que racontent les anciens, plus d'un mois.
Alors, Monsieur Saïb Salah, justement, ensuite on va parler des conséquences justement de ces événements douloureux. En mai 2005, le président de la République n'hésita pas aussi à qualifier donc la répression donc de génocide. Et à propos du nombre de victimes algériennes, il reste encore aujourd'hui impossible donc à établir, mais on peut l'évaluer à plusieurs dizaines de milliers de morts. Il paraît que le consul américain à Alger, qui aurait filmé justement ces événements, parle de 40 000 morts. Et les oulémas plus proches du terrain avanceraient le chiffre de 80 000 morts.
S'agissant du nombre, il y a un consensus autour du chiffre de 45 000. D'ailleurs, au niveau de l'association du 8 mai 45, dont je suis adhérent, Jusqu'à présent, on recense encore des victimes du 8 mai 45. Mieux encore, il y a des victimes du 8 mai 45 qui sont connues à Guelma, des personnages connus, qui ne sont pas morts jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont considérés comme disparus le 8 mai 45. Donc ils n'ont pas le statut de décédé, ils n'ont pas le statut de shahid. Et c'est ce dont à quoi œuvre l'association du 8 mai 45 et la fondation du 8 mai 45 pour la reconnaissance du statut de shahid aux victimes du 8 mai 45. J'ai dit ça au passage et c'est l'objectif de l'association, mais le nombre jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent pour déclarer la disparition d'un des leurs, un certain 8 mai 1945, et l'association est en train de recenser ces noms, au moins pour la mémoire et pour l'histoire.
Monsieur Saïb Salah, justement, donc, les conséquences ont été dramatiques. On dit que la région, enfin, Guelma a eu le plus de veuves et d'orphelins. Une société dont le traumatisme a perduré longtemps.
Ce volet qui a marqué Guelma jusqu'à présent, il a marqué même les mentalités des Guelmois. À l'époque, on était jeunes, à l'aube de l'indépendance, lorsqu'on parlait du 8 mai 45. Déjà, on le célébrait par le jeûne. Les gens jeûnaient le jour l'anniversaire du 8 mai 45. Par la suite, on a commencé à comprendre que le 8 mai 45 était important dans le tournant qu'a pris le mouvement national en adoptant la lutte de libération nationale, la lutte armée. Donc, c'est un objet de fierté pour les victimes du 8 mai 45 et pour Guelma. le 8 mai, a été le levain du 1er novembre 1954. Maintenant, les souffrances. Les souffrances, Guelma, je dirais, et nous avons dit en tant que jeunes à l'époque, Guelma est une ville militante. Ensuite, martyre. Et enfin, combattante. Ces trois volets ont caractérisé la ville de Guelma. Pourquoi ? Parce qu'après le 8 mai 1945, la ville des veuves. Ces veuves avaient des orphelins. C'était la ville des orphelins. Donc c'est comme, un peu comme les films westerns, lorsqu'on exterminait les braves et que restaient les vieux et les enfants. C'était le cas de Guelma. Donc la majorité des gens de notre génération ont vécu orphelins. Et l'orphelin, sous un régime colonial, aucun droit, aucune alternative, aucune ambition pour la vie, c'est des gens qui ont été des cireurs, qui ont été des porteurs, des balayeurs. Toutes les basses besognes étaient réservées à ces enfants orphelins. Cette situation, d'ailleurs je me rappelle une certaine anecdote, après le 8 mai 1945, nous avons une vieille, Birahmaha Baraka Bint Issa. Un responsable du mouvement national après le 8 mai 1945 est venu pour tenir un meeting au marché à Grain, l'actuel jardin archéologique. Cette vieille est venue se chamailler avec ce responsable. Qu'est-ce que vous avez laissé à Guelma? Laissez-nous en paix, il reste des veuves et des orphelins. C'était le raisonnement d'une vieille qui a perdu les siens et qui a perdu les jeunes de sa ville. Donc, vous imaginez un peu le passage entre 1945 et 1954. Et lors de ce passage, j'ai omis de citer un personnage important de Guelma, Boujma Assoudani. Boujma Assoudani, comment il a rejoint le nationalisme? C'était un jeune élégant, il était beau, il était cultivé, il parlait le français, et il était intégré au sein de la société française. Un petit fléau a touché Guelma, une maladie ou je ne sais quoi. On a interdit aux jeunes guelmois musulmans d'accéder au cinéma. Cinéma, le variété, les jeunes allaient au cinéma. Boujma Assoudani était accepté pour entrer au cinéma et les jeunes ont été refoulés. Là, il a pris conscience. Et il n'est pas rentré au cinéma. Et à partir de cet instant, il a opté pour le PPA et pour le militantisme. Et il était parmi les premiers en Algérie qui faisaient partie de l'organisation secrète, l'OS. Il a pris les armes bien avant 1954. Et nous avions une cellule de l'OS à Guelma avant 1954, dont deux membres sont encore vivants, M. Sessi Ibn Hamla et M. Maoui Ismaïn. Ils sont encore vivants, Kbar, Bitaoul Fiamarham. Ces gens-là ont commencé déjà à créer le noyau qui devait prendre les armes le 1er novembre 1954. Et des tas de responsables du FLN sont passés par Guelma pour organiser le 1er novembre pour Guelma et pour Annaba à Guelma.
Monsieur Saïb Salah, merci pour ces pages d'histoire. Vous n'êtes pas historien, certes, mais c'est votre cœur qui a parlé. En tout cas, merci pour ce témoignage. Pour la troisième partie consacrée à la wilaya de Guelma, artistes et chanteurs et sculpteurs viendront déclamer, la décrire et la chanter. Et si vous êtes là, alors ce sera bien.